Suivons le journal avec Inès Lorgopo. Inès Laure, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane, bienvenue à tous dans cette édition de la mi-journée. À la une, cet incident hier autour de la résidence du président de la République. La MINUSCA accuse la garde présidentielle d'avoir ouvert le feu sur des casques bleus égyptiens non armés. COP26 à Glasgow en Écosse, le président Faustin Archange Touadéra appelle les bailleurs à financer l'initiative de protection de la forêt du bassin du Congo. Et puis Rolf Sadounia, le journaliste reporter à Radio Ndékélouka, remporte le prix de la bourse RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Satisfaction du lauréat dans cette édition. Du football à suivre, les programmes des matchs du championnat de la Ligue de Bangui et de la Ligue européenne des champions.
À la une de cette édition, Inès, l'incident sécuritaire survenu hier aux alentours de la résidence du président de la République.
Selon le communiqué de la MINUSCA, 10 casques bleus égyptiens non armés de l'unité de la police ont été blessés par balles, 2 grièvement. Les tirs étaient effectués par des éléments de la garde présidentielle. Toujours selon le communiqué de la MINUSCA, Vladimir Montero, porte-parole de la mission onusienne avec Vianney Ingassou.
Ces casques bleus sont arrivés le 1er novembre à l'aéroport international de Bangui Mpoko dans le cadre de la rotation périodique et du déploiement des troupes en RCA. Et alors qu'ils étaient en direction de leur base, ces éléments, transportés dans des bus, ont essuyé des tirs de la garde présidentielle sans sommation préalable ni riposte aucune, alors qu'il n'était pas armé, comme je l'ai dit. Dans sa tentative de retrait de la zone située à 120 mètres environ de la résidence présidentielle, le bus a heurté une femme qui a perdu la vie. La MINUSCA condamne fermement ce qui apparaît être une attaque délibérée et inqualifiable que rien ne justifie. Le leadership de la MINUSCA et des membres du gouvernement ont immédiatement initié un dialogue pour l'ouverture des enquêtes nécessaires pour tirer toutes les conséquences judiciaires de cet incident conformément aux obligations qui leur incombent.
Contacté, le porte-parole de la présidence n'a pas voulu se prononcer sur ces faits, mais il a indiqué que le ministère de la Défense devra publier dans les prochaines heures un communiqué sur cet incident.
Direction à présent la ville de Dimbi Inès dans la Basse-Côte. Le calme revient après un moment de psychose.
Psychose née des détonations d'armes hier, des tirs faits par des éléments de l'UPC encore présents dans la ville. Selon des sources, ils avaient appris la progression des éléments des forces armées centrafricaines et des soldats russes vers la ville. Ces tirs d'armes étaient pour protester contre ce mouvement des forces légales. Mais pour le moment, la ville de Dimbi est calme et les activités ont repris toujours selon des sources locales.
Inès, c'est peut-être un coup dur pour l'organisation du dialogue républicain en République centrafricaine.
Sur sa page Facebook, il y a 3 jours, Paul Cresson Beninga a écrit, je cite, « Donnons la chance à ce bébé de naître », faisant allusion au dialogue républicain. Alors que ce dialogue amorçait sa dernière ligne droite, les représentants de l'opposition dont le comité d'organisation se sont retirés. Un retrait peut être justifié selon Paul Cresson Beninga, représentant de la société civile dans ce comité dont il est le rapporteur. Il appelle le pouvoir et le médiateur de la République à tout faire pour ramener tout le monde autour de la table.
Je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons dans les travaux préparatoires du dialogue républicain, les membres du comité d'organisation ont compris la nécessité d'aller au-delà de leurs divergences, d'aller au-delà des clivages, afin de ne regarder que vers une seule direction. C'est dire que nous formons désormais une famille. Et donc le retrait des représentants des forces politiques de l'opposition constitue un coup dur pour le comité d'organisation en question. Mais je dois dire ici que ce retrait, ça se justifie, parce que nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Aujourd'hui, nous avons appelé depuis Santé Dio à ce que des mesures de décrispation du climat politique soient prises. Et donc, l'initiative lancée par le président de l'Assemblée qui consiste effectivement à inviter les responsables des groupes parlementaires afin de penser sur la question de la levée de l'immunité de certains députés est une initiative chrysogène. J'en appelle là la sagesse de tout et chacun. J'invite le président de l'Assemblée nationale à suspendre cette initiative qui est aujourd'hui manifestement une initiative chrysogène. J'en appelle également au leadership du médiateur de la République qui doit se saisir de cette question afin effectivement de faire revenir dans ce processus-là les forces politiques de l'opposition. Le dialogue n'a de sens que si toutes les forces vives de la nation se réunissent autour d'une table, mais si on commence déjà à entrevoir des cas d'auto-exclusion, des cas de retrait, à partir de ce moment-là, l'intérêt effectivement d'organiser ce dialogue-là peut être débattu. Donc nous avons besoin de toutes les forces vives de la nation pour ce dialogue-là.
Paul Cresson-Beninga, rapporteur du comité d'organisation du dialogue républicain. Et sur ce sujet, le président de l'Assemblée a rencontré ce matin des leaders de l'opposition démocratique. Il devra animer une conférence de presse dans l'après-midi.
La 26e conférence internationale sur le climat, COP26, se poursuit à Glasgow, en Écosse.
Plus de 100 chefs d'État participent à cette conférence. Le président Faustin Archange-Touadéra, qui a pris la parole hier, a expliqué à ses pairs sa politique de lutte contre le changement climatique. Armand Ouengindi.
Dans son adresse aux participants à la COP26 qui se déroule à Glasgow, en Écosse, Faustin Archange-Touadéra a expliqué que son pays contribue énormément à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la séquestration des gaz carboniques. Le Centrafrique œuvre de concert avec les membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale COMIFAC, martèle le chef de l'État, avant d'éclaircir que la participation de son pays permet de protéger des forêts du bassin du Congo, deuxième massif forestier de l'Afrique tout entière, après l'Amazonie. Vis-à-vis de l'avancée significative du changement climatique dont fait face la RCA, le locataire du Palais de la Renaissance demande aux pays développés de fournir des ressources financières en soutien aux pays en voie de développement afin de lutter contre ce fléau. Il en est de même, poursuit le président Touadéra, pour la réduction de la vulnérabilité afin d'assurer une réponse adéquate et urgente au changement climatique. La 26e conférence sur le changement climatique qui a débuté le 31 octobre dernier à Glasgow va prendre fin le 12 novembre.
13h06, vous écoutez le journal de Radio Ndekiluka. Rolf Steve Domiale, journaliste à Radio Ndekiluka, remporte le prix RFI de la bourse GCN Dupont et Claude Verlan, 8e édition 2021.
Il a été sélectionné par le jury pour son reportage sur la justice coutumière dont la résolution de conflits entre éleveurs et agriculteurs à Pama, village situé à 45 km au sud-ouest de Bangui. Ce prix en hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journaliste et technicien à RFI, assassiné à Kidal au Mali le 2 novembre 2013, récompense des jeunes journalistes africains chaque année. Rolf, formé au département des sciences de l'information et de la communication à Bangui, travaillant depuis 2 ans à Radio Ndekiluka, est le premier journaliste centrafricain à participer à ce concours et à recevoir le prix. Satisfaction pour le jeune journaliste centrafricain que nous écoutons ici.
Je trouve difficilement les mots. Le seul mot que je trouve présentement, c'est juste « waouh » quoi. « Waouh ». Pour moi, c'est juste un rêve d'enfance qui vient de se réaliser. J'ai toujours rêvé de devenir un jour un très, très grand reporter. Et j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce stade-là. J'ai suivi beaucoup de médias, beaucoup de grands journalistes chevronnés. Radio Ndekiluka, je dirais que elle est la partie intégrante de ma formation parce que Radio Ndekiluka a achevé ma formation dans le domaine du reportage. Parce que depuis 2 ans maintenant que je travaille ici dans cette radio, j'ai eu toutes les opportunités possibles d'exprimer mon talent. J'ai ce rêve-là, j'ai cette envie d'aller toujours au front, d'aller toujours sur le terrain pour faire de l'exploit. Et voilà, Radio Ndekiluka m'a donné toute cette opportunité. Donc je dédie ce prix à tous les responsables de Radio Ndekiluka, à tous les journalistes qui travaillent au sein de Radio Ndekiluka. Je dédie également à tous les journalistes centrafricains ainsi qu'à tous les centrafricains parce que c'est une fierté nationale. Nous venons de faire flotter le drapeau centrafricain, de le hisser à l'échelle internationale. Donc vraiment pour moi c'est une fierté nationale d'abord.
Félicitations à vous, Rolf-Steve Domiale, qui s'est distingué parmi plus de 200 candidats issus de 25 pays d'Afrique francophone. Et à côté de Rolf, l'autre lauréate catégorie technicien est Zara Mahamat Hassan, technicienne radio de nationalité tchadienne.
Et à noter aussi que depuis l'assassinat de nos confrères de RFI, le 2 novembre est déclarée journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes.
Selon l'Observatoire des journalistes tués de l'UNESCO, entre 2006 et 2020, plus de 1200 journalistes ont été tués dans le monde et près de 9 cas sur 10 de ces assassinats restent non résolus judiciairement. Cette année, selon Reporters sans frontières, les journalistes continuent encore d'être privés de leurs droits. Ils sont encore victimes de détentions arbitraires et ils sont plus de 400 en détention dans le monde selon Reporters sans frontières.
Et ici, en République centrafricaine, Inès, l'Union des journalistes centrafricains UGCA réclame de meilleurs traitements pour les journalistes.
Le président de l'UGCA au micro de Cresroy Jordan Badengue.
Entre 2006 et 2020, près de 15 journalistes ont été tués sur le territoire centrafricain, qu'ils soient centrafricains ou étrangers, et aucun cas n'a été élucidé. Alors ce cycle de violence à l'encontre des journalistes est souvent révélateur d'un affaiblissement de l'état de droit et du système judiciaire. Depuis que nous avons été au niveau de l'Union des journalistes de Centrafrique, la première action que nous avons menée, c'est de déposer plainte auprès des tribunaux afin d'avoir gain de cause. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse et nous ne savons plus à quel saint nous vouer. En ce jour particulier, j'aimerais plutôt m'adresser à tout le monde de se joindre à cette campagne de l'impunité contre les journalistes. Les élus du peuple, le gouvernement, les partenaires, les organisations professionnelles des médias eux-mêmes, à unir leurs efforts pour garantir la sécurité des journalistes et en finir avec l'impunité.
Le journal se poursuit direction à présent la préfecture du Mbomo, précisément à Bangassou. La pratique de la pêche est confrontée à quelques difficultés.
Même si la pêche continue d'être fructueuse, l'évacuation des produits reste un défi. Les pêcheurs se plaignent également du difficile accès au matériel de pêche. En cause, la dégradation des routes et la présence des poches d'insécurité dans la région. Reportage de Rolf Steve Domialeux.
Ce matin, le vent vient de l'est. Michael s'apprête à partir avec sa pirogue comme tous les jours depuis 20 ans. La rivière Mbomo est calme, mais elle produit une quantité énorme de poissons. Les riverains du Mbomo vivent essentiellement de la pêche, un circuit de travail qui va de la construction d'une pirogue à la fabrication des filets. Mais avec la crise, les pêcheurs sont coincés.
Après la crise qui a secoué la localité, nous avons rencontré d'énormes difficultés. Le prix des matériels a augmenté. Il est difficile à l'heure actuelle de trouver des filets.
Ce matin, plus de 10 pirogues sont accostées au bord de la rivière Mbomo et plusieurs filets sont étalés sur des sables fins. Selon Toto, l'un des pêcheurs, il y a plusieurs techniques de pêche.
Il y a plusieurs techniques de pêche. Souvent, on utilise des filets, mais dans d'autres cas, on utilise l'appât, communément appelé yongo. Parfois, la pêche est rentable le matin, à minuit ou à 3 heures. Il n'y a pas de moment précis.
Tout travail mérite salaire, mais aujourd'hui, leurs efforts méritent des poissons. Ces jeunes rentrent toujours de la pêche avec des paniers remplis, mais ils ont perdu leur potentiel client à cause de la crise. Serge Pêcheur.
Auparavant, on fait la pêche jusqu'au niveau de la rivière Chinko, mais maintenant, on n'en peut plus. Là-bas, des hommes armés commettent des exactions sur des pêcheurs et ils détruisent leurs pirogues. C'est pourquoi on est concentré sur la rivière Mbomo.
Chaque jour, les pêcheurs de la rivière Mbomo affrontent les vagues dans leurs activités. Frais ou séchés, ces poissons abondent. Mais depuis 8 ans, l'insécurité ne permet pas aux pêcheurs d'évacuer leurs poissons à Bangui et dans les autres régions de la République centrafricaine. Rolf Esteve Domialeux de retour de Bangassou, Radio Dekeluka.
Et la page sport, c'est avec vous Claire Asamba Denga. Claire, bonjour.
Bonjour Inès Longopo, bonjour à tous.
Nous ouvrons la page sport avec du football. Les fauves locaux ont démarré les entraînements depuis hier au centre technique de Bangouma, dans le 7e arrondissement.
Tout à fait Inès, ils s'entraînent tous les jours pour préparer les matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RCA va affronter le Cap-Vert le 13 de ce mois à Mindélé au Cap-Vert et le 16 du même mois, elle joue contre le Libéria Tanger au Maroc.
Football toujours, après une pause hier, le championnat de la Ligue de Bangui reprend aujourd'hui.
Tout à fait Inès, les matchs reprennent avec l'ouverture de la 7e journée en 2e division. En ce moment, AS Kpetene joue contre FCFDS, la 10e journée, souvent en 1ère division avec le duel Olympique Réal de Bangui et Diplomate Football Club du 8e arrondissement d'FC 8. Le club Red Star est pour le moment en tête du classement provisoire avec 18 points.
En basketball, la fédération réagit sur la situation du club Tondema qui est pour l'instant bloqué au Cameroun.
Tondema, club champion de la Ligue de Bangui, était à Yaoundé pour les matchs des éliminatoires de la Basketball Africa League à Yaoundé au Cameroun. Quelle est donc la situation actuelle de l'équipe? Aimé Serge Singa Bingba, président de l'instance centrafricaine de basketball, donne des précisions.
À partir du moment où l'État n'avait pas encore décaissé les fonds, et jusqu'au moment où je vous parle, les fonds n'ont pas été débloqués par l'État, la fédération a consacré 3 millions de francs pour cette mission. Et au moment où je vous parle, il y a des éléments qui sont déjà arrivés et il y a des éléments qui sont à Garamoula et qui vont quitter dans quelques minutes pour rejoindre Bangui. Pour nous, il était important d'aider Tondema à aller se confronter aux autres. Et même si les résultats ne sont pas ce que nous espérons, mais c'est avec ce type de compétition que nous allons progresser parce que nous allons voir comment les autres évoluent et nous aussi nous allons adapter notre basket à l'évolution du basket mondial. Mais je profite aussi de l'occasion pour saluer le courage des jeunes de Tondema qui, par amour du basket, sont partis dans les conditions difficiles pour jouer.
Une information confirmée par Charlie Nombissou, secrétaire général de Tondema que nous avons joint ce matin. C'est depuis 2013 que la RCA n'a pas participé au tournoi des clubs champions d'Afrique.
Merci à vous Claire Assamba Dengue, c'est la fin de ce journal sur les 100.9 FM. Journal à suivre également sur les www.radiondekeluka.org, nos pages Facebook, Twitter et Instagram. La version sango de cette édition, c'est tout de suite. Dekeluka, Dekeluka, Dekeluka.